Il est 18h30 à Paris, 17h30 en temps universel. L'heure du débat du jour avec Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique. Et ce soir dans le débat du jour, nous évoquons l'avenir de l'Allemagne.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Alors l'avenir proche de l'Allemagne, ce sont les élections législatives qui sont prévues dans 11 jours maintenant, le 23 février prochain. C'est un scrutin qui est observé de très près tant les enjeux sont importants. D'abord politiquement, le parti d'extrême droite AfD ne cesse de monter. Il est annoncé en deuxième position et cela s'inscrit dans un contexte économique très difficile puisque l'Allemagne sort de 2 ans de récession. D'où notre question ce soir, est-ce que l'Allemagne peut retrouver son leadership européen ? Car historiquement, l'Allemagne est un poids lourd du vieux continent, mais le poids, dira-t-on, est de moins en moins lourd. Donc jusqu'où ira la dérive ? Comment l'Allemagne peut-elle se relancer ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités à mes côtés en studio, Jacques-Pierre Goujon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et auteur d'un ouvrage, voilà, pile poil dans notre débat, L'Allemagne, un enjeu pour l'Europe. Face à vous, Marie Carpata, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Jacques-Pierre Goujon. Que peut-on dire en quelques mots de la situation aujourd'hui de l'Allemagne ? Alors, il y a un mot qui revient régulièrement, je l'ai cité, le mot récession. Ça fait 2 ans que l'Allemagne est en récession. Elle pourrait être encore en récession en 2025 ?
Elle pourrait être encore en récession en 2025. Alors, les derniers chiffres annoncent plutôt une stabilisation, hein, alors qu'on a eu moins 0,2 l'année précédente. Alors, la difficulté principale de l'Allemagne à l'heure actuelle, c'est évidemment la remise en cause de son modèle économique. Et on voit bien, quand on regarde les grandes branches de l'économie, que ce soit l'automobile, la chimie, la machine-outil, hein, qui sont les marqueurs, peut-on dire, hein, de la santé de l'économie allemande, la situation est mauvaise puisque dans chacun de ces domaines, des licenciements sont annoncés. Et des grands patrons se manifestent d'ailleurs. Ouais. C'est rare, on a eu récemment une manifestation d'ailleurs de patrons à Berlin, hein, qui ont dit, mais bon, finalement, la campagne c'est très bien, électorale, je veux dire, mais qui s'occupe de nous ? Nous avons de graves problèmes, coût d'énergie. Hein. Il faut savoir, je regardais les chiffres, parce qu'il faut aussi être concret sans vouloir citer trop de chiffres, évidemment. Bon, pour l'industriel en Allemagne, le coût du kilowattheure, hein, c'est 23 cents. En France, c'est 18, aux États-Unis, c'est 8.
Donc, c'est le coût du travail qui mine.
Le coût de l'énergie, par contre, kilowattheure. Okay. Hein. Donc, ça, c'est quand même un sujet fondamental. Et le deuxième sujet fondamental, c'est, vous l'avez dit, le coût du travail. Hein, le coût du travail qui, en Allemagne, pèse. Ouais. Alors que si on fait la moyenne de l'ensemble des différents secteurs, l'Allemagne a un niveau de coût de production inférieur à la France, hein, légèrement, mais dans l'industrie, c'est le contraire. Voilà. Donc l'industrie a une vraie difficulté, et c'est d'autant plus grave que l'industrie représente 21% du PIB. Contre 11% pour la France, pardon. C'est toujours intéressant d'avoir des comparaisons pour illustrer les choses. Donc, qui dit crise industrielle, dit en Allemagne crise tout court.
Oui, bien sûr. Crise des exportations, du coup.
Crise des exportations.
Ça aussi, c'est un mot important pour l'Allemagne, l'exportation.
Absolument.
Le modèle allemand fonctionne là-dessus.
Absolument. Hein. Les exportations, c'est quand même 67% en termes de PIB, donc c'est énorme. Et il y a même une prolongation intéressante en termes diplomatiques. Pourquoi ? Parce que avec l'arrivée de Trump au pouvoir et sa volonté de réduire le déficit avec l'Europe, l'Allemagne est principalement ciblée.
Ça annonce un horizon
sombre pour l'Allemagne. L'excédent de l'Allemagne avec les États-Unis, c'est 71 milliards d'euros. Ouais. Donc c'est énorme. Ouais. Bon. Et là, Trump et ses collaborateurs connaissent ces chiffres.
L'Allemagne est très dépendante, effectivement, des États-Unis.
Très dépendante.
L'exportation, la sécurité.
Oui, absolument, notamment. Sécurité. Et on pourrait dire aussi une dépendance très forte à l'égard de la Chine, qui pose effectivement un problème. Hein, dépendance qui n'est pas liée uniquement à ce chancelier actuel, Olaf Scholz, hein, qui date de bien plus longtemps. Hein, et on voit bien des groupes comme par exemple Volkswagen, BMW, Volkswagen 38% de son chiffre d'affaires en Chine. Il faut quand même s'imaginer ce que ça représente. Donc, il y a une vraie difficulté. Donc, c'est l'ensemble, quand même, du modèle qui est rediscuté, si je puis dire.
Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord, Marie Carpata, alors ça fait écho à ce que nous dit Jacques-Pierre Goujon, avec cette phrase de Max Kray, qui est un économiste allemand et qui a dit ceci récemment dans une tribune dans la presse, la stagnation économique de l'Allemagne menace le cœur même de l'identité collective.
Bon, je pense qu'effectivement, ce qui fait la fierté de l'Allemagne, c'est son économie. Et c'est la locomotive économique européenne, la première économie européenne, troisième économie mondiale. On a évoqué le modèle d'exportation, hein, c'est le troisième exportateur mondial, le troisième importateur mondial, au modèle économique ouvert, extraverti, basé sur des chaînes de valeur internationalisées. Donc effectivement, là, c'est un modèle économique qui est remis en question. Vous avez évoqué un certain nombre de sujets qui sont liés. Il y a aussi le fait que les infrastructures, on a sous-investi dans ces infrastructures, donc il y a un retard dans les infrastructures de transport et de télécommunications, par exemple.
Il y a
un manque d'investissement. Il y a effectivement aussi la question de la démographie. Donc en fait, une démographie qui risque d'avoir aussi des répercussions sur la population active. Donc la FMI considère qu'il y aura un recul de 0,5% de la population active sur les 5 années à venir, par exemple. Il y a aussi le sujet qu'on a misé sur des technologies qui potentiellement seront des technologies amenées à être obsolètes. On peut prendre l'exemple de l'automobile, par exemple, où la spécialité de l'industrie automobile allemande, c'est le véhicule thermique. Or, de plus en plus, c'est le véhicule électrique qui est amené à s'imposer. On le voit en Chine, on le voit à travers BYD, mais également à travers Tesla, par exemple. Et là-dessus, BMW, Volkswagen, Mercedes ne s'adaptent pas assez rapidement aux attentes des consommateurs et aux attentes du marché et ont une structure rigide, un business model rigide qui fait qu'il ne s'adapte pas à cette situation-là. Et puis après, il y a le frein à l'endettement et ça rejoint la question des investissements hein, dans les infrastructures, dans les technologies d'avenir, dans la transition écologique, verte et numérique. Donc ce frein à l'endettement...
La fameuse orthodoxie budgétaire
Parce qu'effectivement,
le déficit, il est quasi inexistant en Allemagne. Il faut bien comprendre ça.
Oui, alors donc le frein à l'endettement, c'est le fait qu'il ne faille pas dépasser les 0,35% de déficit structurel par rapport donc au budget fédéral.
Ouais. Et ça, donc, c'est pas une ligne qui pourrait bouger.
Et donc ça, c'est une ligne qui pourrait éventuellement bouger, effectivement. Donc le SPD, les sociaux-démocrates, qui étaient donc dans la coalition feu tricolore, et les Verts, également dans cette coalition feu tricolore, aimeraient adapter ce frein à l'endettement. Or, le FDP, les libéraux, donc le troisième parti dans cette coalition, est contre le fait d'assouplir ce frein à l'endettement. Ouais. Et c'est bien ce qui a causé beaucoup de troubles dans cette coalition et qui finalement a aussi participé à la faire chuter.
Ça, c'était fin d'année dernière.
Exactement.
Et ce qui a précipité des élections législatives qui auront lieu le 23 février prochain. Est-ce que vous diriez, fort de tout ce que vous nous avez dit là, que le modèle allemand n'est plus adapté à l'époque actuelle ?
Alors, je pense que sur la question, effectivement, du modèle extraverti, il va falloir changer.
Extraverti, vous attendez.
Donc, internationaliser,
d'accord,
en fait. Donc,
les exportations.
Les exportations, le fait que des entreprises allemandes sont présentes sur d'autres marchés. Donc, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure avec Volkswagen, qui vend 40% de ses voitures en Chine et en produit 38% en Chine. Donc, c'est ça aussi qui fait que l'Allemagne est peu adaptée à une crispation ou une fragmentation du commerce international et à des troubles géopolitiques. Or, avec la rivalité sino-américaine, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les droits de douane de Donald Trump à l'égard du Mexique, du Canada, de la Chine, mais aussi de l'Union européenne. Donc, les entreprises allemandes risquent d'être touchées directement, mais aussi indirectement, par le biais des marchés où les entreprises allemandes sont établies. Par exemple, au Mexique, il y a des voitures allemandes qui sont produites au Mexique pour le marché américain, par exemple. Donc ça, c'est effectivement, aujourd'hui, une réalité qu'il va falloir prendre en compte. Et de la même manière que la Chine utilise son poids économique pour le mettre dans la balance et obtenir des intérêts politiques.
Et la Chine, c'est de plus en plus faire des choses même aussi bien ou mieux que l'Allemagne, qui était aussi une plus-value de l'Allemagne, la fameuse Deutsche Qualität, la qualité allemande. La Chine, maintenant, est en avance dans l'industrie, dans plein de domaines par rapport à l'Allemagne. Mmh. Alors, par exemple, les véhicules électriques, vous l'avez cité.
Par rapport aux véhicules électriques,
ça met à mal
par exemple,
l'Allemagne.
C'est le cas aussi pour l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, effectivement, il y a ces aspects-là. Donc, il y a des rapports qui ont été produits récemment, hein, le rapport d'Enrico Letta et de Mario Draghi à l'échelle européenne, pour montrer qu'il y a un décrochage de l'Union européenne en général, donc pas seulement l'Allemagne, mais évidemment l'Allemagne en fait partie, par rapport à la Chine et aux États-Unis. Le fait qu'il y a un écart sur le numérique, par exemple, ça joue un rôle important, qu'on sous-investit en matière de recherche et de développement, par exemple, et qu'on ne produit pas à l'échelle de la même manière que la Chine et les États-Unis, qui ont un marché évidemment bien plus important que l'Allemagne, que la France individuellement. Donc il faudrait véritablement penser à l'échelle européenne, qui est la taille critique qu'il faut pour faire face à la concurrence internationale.
Et ça tombe bien, c'est notre question ce soir, l'échelle européenne. Est-ce que l'Allemagne peut retrouver son leadership européen, Jean-Pierre Goujon, justement, à l'échelle européenne? Que pèse l'Allemagne aujourd'hui? Parce que Marie Carpata nous redisait, première économie du continent, mais dans ce cas-là, ça veut dire... Alors que l'Allemagne sort de 2 ans de récession, est-ce qu'encore elle est une locomotive européenne, l'Allemagne? Alors une locomotive malade.
Elle est toujours la première économie européenne et la troisième mondiale.
Ça veut dire que l'Europe s'affaisse.
Quand même. Oui, elle a détrôné tout de même le Japon, hein, qui était troisième encore il y a 2 ans, et l'Allemagne donc a pris cette troisième position. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement le modèle allemand traverse une crise. Ce n'est pas pour cela que le modèle allemand s'effondre totalement. Il y a quand même des bases extrêmement fortes. Par exemple,
il n'y a pas péril dans la demeure.
Il faut rénover rénover ce modèle. Bon. Okay. Mais il y a des forces, par exemple, qui restent indiscutables. Si je prends le domaine de la recherche. Le domaine de la recherche, l'Allemagne investit 3,2% de son PIB en matière de recherche. En matière universitaire, il y a de très grandes universités allemandes avec de très très grands laboratoires. Bon. Donc, il y a une partie qu'il faut aussi regarder en toute objectivité. Mais c'est vrai que tout ce qui touche au modèle industriel, au modèle de production, va devoir être revu. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux de la campagne actuelle.
L'Allemagne, on ne peut pas dire qu'elle tire l'Europe vers le haut actuellement. Elle est la première économie de l'Europe, ok.
Non. Il y a un côté, elle en est consciente. Hein. Par exemple, une étude est sortie, je crois que c'est hier, en disant que la situation de l'Allemagne risque de conduire en France à une baisse du PIB de 0,1%. Alors, ce n'est pas énorme, tout de même, parce que l'Allemagne est à ce point prédominante en Europe jusqu'ici, qu'une Allemagne qui se porte mal, c'est l'ensemble de l'Union européenne qui en souffre. Alors, je parlais de la France, mais il y a aussi l'Europe centrale. L'Europe centrale aussi est victime d'une mauvaise situation allemande. Ouais. Donc, si vous voulez, elle ne tire plus l'Europe actuellement vers le haut, quelque sorte, mais elle reste prédominante dans toutes les situations économiques qui existent.
L'Allemagne se trouve-t-elle à un tournant, dans le sens où, économiquement, on a dit, elle souffre, elle est en récession depuis 2 ans, elle va peut-être être une troisième année en récession cette année. Culturellement, il y a quelque chose qui change sur l'immigration. L'AFD annoncé, donc le parti extrême droite en deuxième position, crédité de 20% des voix. Il y a eu, ça a fait énormément parler, ça a même fait manifester cette motion sur l'immigration votée par les conservateurs avec les voix de l'AFD, ce qui était une première, c'est un verrou qui a sauté. Qu'est-ce que ça dit de l'Allemagne aujourd'hui?
Alors, ça dit de l'Allemagne aujourd'hui plusieurs choses. Alors, d'une part, il y a un véritable problème d'immigration incontrôlée. Ça, il faut être honnête. Hein. Les 1,5 million de personnes arrivées en 2015, lorsque Mme Merkel disait « voilà, mais on arrivera à intégrer tout le monde ». Bon, même les milieux économiques les plus avancés sur le sujet vous disent « non, on n'a pas pu intégrer tout le monde » parce que beaucoup de gens qui sont arrivés n'avaient pas la qualification requise.
C'était une erreur de la part de la chancelière allemande qui disait le fameux « nous y arriverons ».
Oui, c'est-à-dire
répondre
nous y
à la crise migratoire. Elle est parfois citée en exemple pour
Bien sûr, à l'heure actuelle, vous avez certains maires de grandes villes de gauche qui disent « mais on est allé trop loin, on n'a pas les lieux nécessaires pour qualifier ces gens, on n'a pas les lieux nécessaires pour les héberger ». Voilà, donc si vous voulez, il y a eu une ouverture du cœur, si on peut dire, hein, voilà, à l'époque, qui correspondait à une certaine Allemagne aussi, hein, une Allemagne en meilleure situation. Bon. Et donc, à l'heure actuelle, c'est un sujet, c'est un sujet. Et tous les partis s'en sont saisis. Même le chancelier Scholz, bon, a dit, il y a encore, bon, même pas un an, dans le Spiegel, une grande interview, ça a même fait la une du Spiegel, en disant, il faut expulser davantage. Wir müssen mehr abschieben. Bon, donc si vous voulez, ça fait vraiment, ça touche toutes les forces politiques. Ouais. Alors, par contre, il y a aussi, et il faut le dire, un problème de main-d'œuvre. Main-d'œuvre, mais main-d'œuvre qualifiée. C'est ça la difficulté. Par exemple,
bah aussi en raison de la démographie.
Bien sûr, mais bien sûr. Par exemple, il faut savoir que certains secteurs importants de l'économie, prenons l'automobile, mais c'est pareil dans la machine-outil, 37% des entreprises de l'automobile ou liées au secteur de l'automobile sont obligées de réduire leur activité par manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc ça veut dire qu'il y a, un vrai souci. Et si rien n'est fait dans ce domaine-là, en l'espace de 10 ans, l'Allemagne perdra 5 millions de personnes en termes de population active. C'est énorme.
Marie Carpata, Jacques-Pierre Goujon a dit « immigration incontrôlée ». Est-ce qu'effectivement, l'appel d'air de Angela Merkel, quand effectivement plus d'un million de migrants ont été accueillis en Allemagne après la crise migratoire de 2015, est à l'origine ou est une des raisons de la situation difficile de l'Allemagne aujourd'hui ?
Alors je pense qu'effectivement c'était un geste humain de la part d'Angela Merkel. Après ça n'a pas été forcément accordé non plus avec les partenaires européens, donc c'était une décision unilatérale. Donc il y avait quand même beaucoup de questions aussi sur la route des Balkans, en revenant en Autriche et en partant vers l'Allemagne. Donc ça a causé aussi des questionnements sur la coordination au niveau de l'Europe. Alors il y a en plus de 2015 évidemment les réfugiés qui sont venus en 2022 d'Ukraine. Hein. Donc tout ça, ça accroît la pression en fait sur l'Allemagne et sur la capacité d'accueillir ces personnes. Alors évidemment sur les réfugiés, enfin sur les migrants qui sont venus en 2015, les Irakiens, les Afghans, les Syriens, il y a beaucoup de, beaucoup de questionnements sur l'intégration du fait de leur culture. Ouais. Qui est une culture musulmane.
C'est, voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un virage total dans l'opinion dans parmi la population allemande. Aujourd'hui, 70% des Allemands disent vouloir un arrêt de l'immigration. Oui. C'est en ça que je pose la question, est-ce qu'on n'est pas à un tournant actuellement concernant l'Allemagne ?
C'est-à-dire qu'il y a aussi eu un certain nombre d'attaques, donc l'attaque au couteau de Aschaffenburg, et puis il y a eu un certain nombre d'attentats aussi. Donc, sur les trois derniers, il y avait deux personnes étrangères qui étaient là de manière irrégulière. Il y en avait une qui était arrivée en 2016, qui était là de manière régulière, mais qui avait des motivations contre l'islam et l'islamisme. Donc voilà, enfin tout ça c'est extrêmement compliqué. Les motifs sont toujours très complexes, mais en tout cas il y a cette impression d'insécurité. Et on lit les motifs, enfin on lit le questionnement autour de l'insécurité avec la question de l'immigration de plus en plus. C'est pour ça que l'AFD, effectivement, aujourd'hui, risque de doubler ses scores par rapport à 2021, puisque vous l'avez mentionné, dans les sondages, ils sont actuellement à 20%. Ouais. À l'époque, ils étaient à 10%. Mais je crois qu'il y a d'autres questionnements aussi qui se rajoutent au succès de l'AFD. Il y a d'une part le fait que la coalition fut tricolore, déjà, c'était compliqué comme attelage, avec trois partis qui n'étaient pas d'accord sur tout, plutôt d'accord sur pas grand-chose, surtout le FDP et les Verts. Il y a aussi la question de la guerre en Ukraine et les répercussions de cette guerre sur le plan économique, sur les ménages, mais aussi sur les entreprises. Donc, en fait, les sanctions contre la Russie, qui sont aussi de plus en plus critiquées, en disant qu'elles ont aussi un effet boomerang. D'une part, elles sont peut-être inefficaces, et d'autre part, elles ont un effet boomerang. Donc, ça, c'est des arguments qu'on peut en tout cas entendre. Et donc, il y a ce modèle économique économique effectivement allemand qui est en crise et qui a fait la fierté de l'Allemagne pendant longtemps. Donc c'est, je pense, plusieurs éléments qui entrent en jeu.
Et pour terminer concernant l'immigration, est-ce que l'Allemagne peut retrouver son leadership européen avec un tel virage sur l'immigration porté par l'AFD, encore une fois les conservateurs aussi qui caracolent en tête dans les sondages, qui sont entendus avec l'AFD pour faire voter une motion sur l'immigration. Donc il y a cette évolution qui est forte, ou est-ce que ce serait pas finalement se renier un petit peu de la part de l'Allemagne?
Bon, je pense que de toute façon, ce qu'il y a, c'est une Brandmauer, donc il y a un mur contre l'AFD. Donc il n'y aura pas de coalition au niveau fédéral avec l'AFD, avec l'extrême droite. Hein. Donc le CDU sera potentiellement amené à faire une coalition avec le SPD et les Verts. Et donc il y aura des compromis qui devront être faits. Et ça sera plutôt des compromis qui mèneront à porter cette coalition vers le centre plutôt que vers l'extrême droite.
Donc la question migratoire, elle va être moins prégnante.
On peut le supposer, oui.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
L'Allemagne peut-elle retrouver son leadership européen? La question qu'on pose ce soir à 11 jours des élections législatives anticipées. Les enjeux sont importants. On a évoqué évidemment les questions migratoires, la montée en puissance du parti d'extrême droite AFD annoncé en deuxième position. On a évoqué les enjeux économiques. L'Allemagne, depuis 2 ans en récession. Mes deux invités sont Marie Carpata, chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales, et Jacques-Pierre Goujon, professeur des universités, directeur de recherche à l'IRIS, auteur de L'Allemagne, un enjeu pour l'Europe. On va se projeter sur l'Allemagne de demain. Comment est-ce qu'elle peut retrouver son leadership européen? Est-ce qu'elle peut retrouver son leadership européen, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour y parvenir, Jacques-Pierre Goujon?
Alors, tout d'abord, il faudra attendre l'issue des élections du 23 février, parce que c'est vrai qu'Olaf Scholz ne s'est jamais montré très pressé de se rendre à Bruxelles ou très pressé de se rendre à Paris. Donc, il y a eu une forme de désintérêt par rapport aux questions européennes, de manière globale. Ouais. Je crois qu'il faut être honnête sur le sujet. Bon. Et d'ailleurs, certains au sein de son propre parti, qui étaient beaucoup plus engagés sur l'Europe, lui en ont fait le reproche.
Ouais. Est-ce que ça peut changer avec Friedrich Merz, alors, qui est annoncé comme le chancelier demain, si les conservateurs s'imposent?
Voilà, alors on ne peut pas construire non plus des politiques avec si, mais bon, en tout cas, la CDU a une tradition pro-européenne. Bon. Et en tout cas, dans le programme de la CDU, et Friedrich Merz d'ailleurs l'a dit, il est clairement mentionné que l'Allemagne entendait retrouver son rôle, il le dit d'ailleurs dans le programme de la CDU, en Europe, qu'elle est censée avoir perdu avec Olaf Scholz, qui, c'est le reproche qui lui est fait, se contentait de négocier sur des sujets certes importants. Par exemple, moteur thermique à Bruxelles, l'arrêt, il a beaucoup insisté pour que ce soit 2035, alors que dans un premier temps, sa coalition avait validé que ce soit pas le cas. Enfin bon, c'était très très compliqué. Bon, et on lui a reproché d'être trop technique par rapport à l'Europe et de ne pas avoir de vision sur l'Europe. Alors, il a fait un grand discours.
Mais là, je voudrais qu'on avance parce que le temps tourne. On a compris pour le bilan Scholz. Oui. Projetons-nous sur Merz, si c'est lui qui est chancelier. Oui. En quoi est-ce qu'il peut permettre à l'Allemagne de retrouver son rang en Europe, justement? C'est ce que vous dites. Mais comment?
Alors, moi, je pense d'abord en se rapprochant des pays qu'il considère comme phares, tout de même, Paris et la Pologne. Donc, pour les Français, il faut avoir à l'esprit que pour l'Allemagne, la France est un partenaire parmi d'autres. Bon. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, dans le programme de la CDU, il est clairement mentionné nos deux grands partenaires, la France et la Pologne.
Donc pas miser que sur la France, surtout vu la situation politique, économique compliquée de la France.
Voilà, voilà. Donc je pense qu'il va y avoir cette tentation de renouer avec la France, et puis de se tourner véritablement vers l'Europe centrale. Bon. Ce qu'a un peu délaissé également Olaf Scholz, à part le fait d'avoir fait un grand discours à Prague sur ce sujet. Bon. Donc là, il y a quelque chose de très très important dans ce domaine-là.
Ok, un changement de pivot, donc au niveau européen, Marie Carpata, est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement plus culturel, profond? On a évoqué le rapport Draghi qui a appelé à davantage penser européen. Et vous avez dit cavalier seul tout à l'heure de l'Allemagne. Elle a fait plusieurs fois ces dernières années cavalier seul l'Allemagne sur des plans, sur l'énergie, des choses comme ça.
Et puis bon, c'est vrai qu'il y a aussi la question de l'endettement commun pour renforcer l'Europe, pour renforcer l'industrie européenne, pour renforcer l'industrie de la défense européenne. Et là-dessus, bon, il faudra voir ce qu'il en est. La CDU est quand même assez... elle ne souhaite pas vraiment adapter ce frein à l'endettement. Dans le programme de la CDU, il y a écrit il ne faut pas l'adapter. Maintenant, Friedrich Merz, à d'autres occasions, a laissé entendre que cela serait possible, potentiellement. Donc, il s'agira vraiment de voir ce qui se fera ou ce qui se fera pas. Il souhaite, en tout cas, miser sur des champions européens, sur les fameux projets d'intérêt importants économiques communautaires, miser sur le secteur des batteries, des semi-conducteurs. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il a proposé. Maintenant, je pense que c'est aussi un chancelier, s'il devient chancelier, qui sera aussi très transatlantique, aussi très proche des États-Unis sur le plan de la sécurité et de la défense. C'est tout ce qui concerne aussi les projets d'armement en commun qu'on a. Donc, on a des projets d'armement français et allemand, franco-allemand. Mais il y a aussi ce fameux bouclier du ciel européen, qui est un projet qui est basé sur des technologies étrangères en partie, y compris américaines. Donc ça, que ce soit du côté de la CDU ou du SPD, on est pour ce type de projet, alors qu'en tant que Français, on considère plutôt que la logique de l'autonomie stratégique voudrait qu'on mise d'abord sur des technologies européennes, par exemple.
Jacques-Pierre Goujon, est-ce que c'est porteur de, pour reprendre le mot de Marie Carpata, de rester proche ou d'être de plus en plus proche de l'Amérique de Donald Trump, du coup?
Alors ça, c'est l'enjeu sur lequel a essayé de jouer aussi déjà Madame Merkel et que tous les chanceliers, notamment chrétiens-démocrates, auxquels ils sont confrontés. C'est-à-dire que avoir une relation particulière avec les États-Unis, ça c'est l'histoire allemande, on va pas, le temps nous manque là, mais bon, depuis 1949, c'est très très important.
Mais là, encore une fois, Donald Trump, c'est un cas à part.
Voilà, c'est un cas à part. Bon, néanmoins, Friedrich Merz, après l'élection de Donald Trump, a dit « mais il faut aller vers les États-Unis ». Et il a proposé, d'ailleurs dans une interview, une zone de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc ça veut bien dire que dans son esprit, Trump ou pas Trump, il faut quand même aller vers les États-Unis. Il faut trouver une solution. Bon, voilà. Bon. Et en même temps, il faut trouver un équilibre européen parce que l'Allemagne, elle existe, elle en est aussi pleinement consciente, pleinement aussi à travers l'Union européenne. C'est la première contributrice au budget européen, on l'a dit, c'est la première puissance économique européenne. Bon, voilà, donc il y a une attente à son encontre. Donc ça, elle ne peut pas s'y fermer. Ça, c'est incontestable. Par contre, je pense qu'il va falloir s'habituer à ce que Merz regarde beaucoup vers les États-Unis. Ouais. Et il y a un point sur lequel j'aimerais insister concernant la coopération européenne, c'est tout ce qui touche à la défense. Parce qu'il y a des tas de projets qui sont restés ou dans les limbes, ou qui n'avance pas parce qu'il y a des dissensions franco-allemandes. Le fameux char du futur, là, on voit bien qu'il y a des problèmes et que les Allemands ont décidé de construire un char intermédiaire, le Léopard 3, contre le désir des Français. Les Français ont dit, ça va prendre du temps, on doit attendre 2040, mais les Allemands ont dit, 2040, c'est trop tard. Donc, nous, on va construire notre propre char. Oui. Alors là, ça a été la grande stupéfaction parce que les Français considéraient que, la priorité allait à un produit franco-allemand. Donc il faut avoir cet esprit-là. C'est-à-dire que l'Allemagne va peser en Europe sans que cela corresponde forcément aux intérêts français.
Et pour répondre à la question, l'Allemagne peut retrouver son leadership européen, selon vous, alors? C'est un oui ou un non, hein?
Oui. Oui, bien sûr.
Oui. Oui, je pense.
Voilà, merci beaucoup, on a répondu à la question. Merci à vous deux, Jacques-Pierre Goujon, professeur des universités, directeur de recherche à l'IRIS, et Marie Carpata, chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales. Merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat, Claude Battista à sa réalisation. Coup d'œil à la pendule, car c'est la fin de ce débat du jour. Mais dans une minute, l'info reprend sur RFI, sera le grand journal du soir. Et puis, 30 minutes plus tard, Afrique Soir, la première édition de ce mercredi. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
On jette un coup d'œil au programme. La RDC, une délégation de l'Église catholique et de l'Église protestante, s'est rendue aujourd'hui à Goma.
Mais oui, les chefs religieux ont poursuivi leur consultation dans le cadre de ce qu'ils appellent un pacte social pour la paix, le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. La délégation a été reçue par Corneille Nonga, le coordinateur de l'AFC, la vitrine politique. M23.
Autre titre, les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine réunissent ce matin à Addis Abeba.
Oui, réunion pour préparer justement le sommet des chefs d'État de l'organisation panafricaine prévu samedi et dimanche. Ce sommet doit permettre de faire le point sur la situation en RDC et de procéder à la désignation d'un nouveau président de la commission de l'UA. Après 8 ans à ce poste, le Tchadien Moussa Faki Mahamat doit céder la place. Nous l'entendrons.
Très bien, merci Zéphirin Quadio. Et nous vous entendrons. 19h30 ici à Paris. C'est dans 30 minutes, mais pour l'heure, le grand journal du